grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. L'irrespect, c'est une situation à laquelle il est parfois difficile d'échapper. C'est ce sale type qui vous passe devant dans une file d'attente, téléphone à l'oreille, ce supérieur hiérarchique qui vous coupe la parole à chaque fois que vous ouvrez la bouche, cette voisine qui vous menace à demi-mot, ce conjoint qui vous a fait sentir tout son mépris par des mimiques de dégoût ou qui utilise des injonctions paradoxales pour vous rendre dingue, c'est cette femme qui vous insulte alors qu'elle vient de vous bousculer sans ménagement. Mais comment se défendre face à cet irrespect qui peut prendre de multiples formes? Comment lutter contre ces agressions et manipulations verbales qui vous laissent sans voix, vous mettent KO debout? Ce matin, nous vous fournissons quelques armes pour conserver la tête haute en toutes circonstances. La tête haute, c'est d'ailleurs le titre du livre de notre invitée, l'enseignante Mathilde Lévesque. Et vous, comment faites-vous face aux agressions et manipulations verbales? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Et puis, comme tous les mardis, les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Qui rentre de sa retraite bretonne avec un teint de jeune fille.
Merci.
Que vous inspire notre thème du jour?
Eh bien, ça me fait penser à tout un tas de gros mots et à ce qu'on appelle la correction fraternelle.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Mathilde Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, vous enseignez dans un lycée de la région parisienne et vous publiez chez Payot « La tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle ». Alors l'idée centrale de votre livre, c'est de se faire respecter. Le respect, nous dit le Larousse, c'est le sentiment qui porte à traiter quelqu'un, quelque chose avec de grands égards. Comment est né ce manuel d'autodéfense ?
Alors, je pense qu'il est né de mes élèves. J'enseigne en Seine-Saint-Denis, j'ai des élèves qui sont plus que médiatisés. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils étaient si souvent sur la défensive. Justement, pourquoi est-ce que donc ils se sentaient en permanence agressés. Et puis, je me suis rendu compte en fait que c'est parce que... En tant qu'adolescent, d'une part, qui vivent dans le 93, d'autre part, issus de l'immigration, enfin, c'était des personnes considérées en permanence comme suspectes, et que même lorsqu'ils n'étaient pas agressés, du coup, ils sentaient la nécessité de se protéger. Voilà. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur cette question. Voilà, écouter aussi le récit de mes amis, hein, réfléchissaient parfois à comment réagir à une agression de, comme vous l'avez dit, le patron, le chef, la voisine. Et c'est mon éditeur qui m'a suggéré de rassembler tout ça sous le terme d'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire de construire un guide rhétorique, plus que développement personnel, ça c'est pas ma spécialité, rhétorique, analyse du discours pour savoir comment faire.
L'idée de l'autodéfense intellectuelle, c'est de penser la protection sans l'agressivité.
Oui, c'est ça. En fait, une des notions fondamentales hein, qui va avec le respect, c'est celle de la dignité. C'est-à-dire se protéger, oui, mais pas à tout prix. Être non pas forcément le plus fort, mais le meilleur. Et arriver, d'une part, à se protéger, d'autre part, à ne pas surenchérir dans l'agression ou l'agressivité. Et, dans l'idéal, faire en sorte que l'autre reconnaisse son agression.
Ce que vous défendez, c'est de sortir de l'échange la tête haute, sans forcément mettre la tête de l'adversaire sous l'eau.
Oui. Ben c'est ça la dignité, hein, c'est-à-dire que dans l'idéal, et parce que certaines agressions sont parfois inconscientes et involontaires, faire en sorte que l'autre, que l'agressivité lui revienne en pleine tête et qu'il fasse lui-même le travail qui doit être le sien sans qu'on ait besoin de l'y forcer.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que finalement vous balayez un petit peu toutes les situations, Ali l'a rappelé, cette violence ordinaire hein, des échanges humains au quotidien à laquelle on peut tous être confrontés. Et finalement vous nous expliquez qu'il faut se construire un esprit critique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je pense que je parle moi d'expérience, hein, la rhétorique m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il faudrait idéalement être en permanence en duplex, c'est-à-dire écouter ce que l'autre dit, être dans l'interaction et analyser en même temps, de manière algorithmique, ce qui est en train de se faire. Je le fais, j'y arrive, ça se travaille, c'est une gymnastique de l'esprit. Et être en permanence en train de répondre à ce qui est dit et de se demander comment c'est dit. Parce que parfois, on se sent humilié, on se sent agressé, mais ce n'est pas volontaire de la part... évidemment, le plus souvent, c'est volontaire, hein, attention, mais voilà, être en permanence en train d'analyser ce qui nous est dit. Et ce livre fournit un peu des pistes pour savoir repérer et nommer les stratégies qu'on pourrait identifier, sentir intuitivement chez l'autre.
Alors l'idée centrale de votre livre, c'est de ne pas perdre la face. Perdre la face, c'est une puissante source d'humiliation. Comme le rappelle le grand sociologue Erving Goffman, la face peut être remise en cause à chaque interaction. De façon schématique, Erving Goffman nous dit que les interactions sociales puisent leur source dans le souci de garder la face, de faire bonne figure. Et tout au long de la journée, on a de multiples occasions de la perdre, cette phase, d'être humilié.
Oui, alors je pense quand même que petit à petit, on a de moins en moins d'occasions, c'est-à-dire qu'on finit par être aussi, pour le dire, comme les gens diraient, celui qu'il faut pas emmerder. Voilà. Et donc, il faut arriver à je sais pas comment le dire autrement, en fait, à avoir autour de soi une armure très claire pour les interlocuteurs qui fixent les limites de ce qu'on est capable d'accepter et de tolérer. Et il faut soi-même aussi, se dire, faut pas sombrer dans la paranoïa non plus et crier à l'agression H24,
Faut être conscient.
À la victimisation, faut être conscient aussi de ses propres travers.
Mais à qui s'adresse ce livre exactement?
Alors, moi je l'ai fait pour les gens qui se sentaient humiliés et agressés, pour leur montrer que les choses qu'ils sentaient intuitivement avaient un nom, et depuis l'Antiquité, et que donc, voilà, c'était pas eux les victimes. Le deuxième effet que je n'avais pas prévu, c'est les gens qui sont plutôt agresseurs, involontaires, et qui se retrouvent dans ces pages et qui se disent, qui me disent, oh là là, mais quelle horreur, moi je fais ça tout le temps, voilà. Donc ça, c'est la bonne surprise.
Parce que le plus terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons, disait-on dans la règle du jeu. Qu'est-ce qui motive les agresseurs, ceux qui veulent nous faire perdre la face? C'est quoi leur raison?
C'est la même que nous, mais côté agresseur, c'est-à-dire garder la face. Le mensonge, par exemple, le mensonge pour se préserver, c'est le profil du bulldozer. Je passe en force parce qu'il faut que j'y aille, il faut que la préservation de soi. Et puis, je pense que ça, c'est le principal motif, la préservation de soi, de sa propre dignité, mais qui est mal régulée, donc ça sort de manière agressive. Et puis parfois, il y a hélas pas de motivation, une mauvaise humeur, une contrariété de la veille, et c'est le mauvais qui prend. Et quand le mauvais c'est vous, c'est compliqué.
Christophe André, on agresse souvent par manque de confiance en soi.
Bien sûr, on agresse souvent par manque d'estime de soi pour se rassurer, parce que finalement, rabaisser les autres, c'est un moyen de rétablir de la distance, de rétablir une certaine supériorité, parce que ce sont des mauvais combats finalement pour l'estime de soi. Nous, on sait bien en psychologie que la bonne estime de soi, ça n'est pas le désir d'être supérieur aux autres, mais c'est au contraire le renoncement aux comparaisons, aux compétitions, c'est le fait de comprendre que finalement, on a tous à suivre notre route, à respecter la manière dont les autres la suivent. Et effectivement, beaucoup, alors je pense que Mathilde Levesque a plus d'expérience que moi dans ce domaine, mais beaucoup de ces jeunes qui agressent d'ailleurs, en tout cas, qui sont violents verbalement, d'une part, c'est pas toujours des agressions, il y a une sorte de culture qu'ils ont apprise, un peu comme dans la chanson de Nougaro, là, quand il parle de Toulouse, il dit « on se traite de con à peine qu'on se traite », c'est-à-dire il y a quand même une sorte de culture comme ça dont ils finissent par oublier la violence potentielle. Et puis, parfois, il y a des propos qui nous semblent violents, qui ne sont pas forcément un désir de nous agresser, c'est leur mauvaise humeur, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait qu'ils sont eux-mêmes se sentent insécurisés. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail de décodage, mais qu'il est très compliqué de conduire, parce que quand même, quand on se fait engueuler, insulter, agresser, ça active automatiquement dans notre cerveau tout un réseau de c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, qui nous pousse, nous-mêmes, à la contre-attaque. Et donc, il faut faire un travail psychologique très complexe, d'éteindre ses impulsions, d'allumer sa réflexion, de respirer, de regarder le temps. Et donc, souvent, on simplifie la vie et on riposte.
Mathilde Lévesque.
Je suis tout à fait d'accord, mais je suis une ancienne cerveau émotionnel. Et non, mais c'est vrai, ce livre-là, maintenant, je peux plus péter un plomb, j'ai plus le droit. Ouais. J'explique aux autres comment ne plus le faire. Donc, et c'est vrai que il y a un moment de latence où on sent qu'on va réagir comme ça, où il faut prendre sur soi, faire OK. Mais en même temps, ça doit être très court, hein, c'est-à-dire analyser très vite. Et si on sent qu'on a besoin de temps pour réfléchir, il faut le poser, ça, il faut le dire. Écoute, on en reparle plus tard, voilà. Mais il faut que ce soit dit et non pas se laisser écraser, rentrer chez soi, dire merde, j'aurais dû dire ça et revenir le lendemain. Il faut prévenir qu'on va revenir, je pense.
Mais on peut ruminer quand on a justement pas le sens de la répartie, que finalement on ne contre-attaque pas.
Bien sûr, ça
peut être très gênant psychologiquement.
D'abord,
cette rumination
très gênant. Est très dangereux parce que beaucoup des personnes qui se sont senties humiliées, qui n'ont pas réussi à riposter, vont justement ruminer leur frustration, leur colère, leur ressentiment, et peu à peu ça va se transformer en rage et en haine et en désir de vengeance. Et on a parfois des espèces de réactions décalées comme ça chez des gens au départ qui étaient plutôt vulnérables, qui n'ont pas trop su quoi répondre et qui ensuite, lorsqu'ils vont riposter, ça va être d'une violence extrême.
Psychologiquement, quelle est la source de l'humiliation, Christophe André ?
C'est l'image de soi. C'est-à-dire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, tous les deux, cette notion de perdre la face, c'est vital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, c'est un animal social, comme le disait Montesquieu. Et donc, pour un être humain, c'est pas possible d'être mis à l'écart du groupe. Alors, il y a ceux dont l'obsession, c'est de rester dans le groupe en prouvant leur supériorité. Il y a ceux qui vont rester dans le groupe en affichant leur soumission. Et puis, il y a tous ceux au milieu qui vont tenter de jouer des coudes, de montrer, au fond, qu'ils sont plus forts, plus beaux, plus ceci, plus cela. Et en tout cas, c'est intolérable de se sentir mis à l'écart. Il n'y a pas de plus grande blessure. Et donc ça fait basculer les humains, cette mise à l'écart, cette humiliation, cette vexation, cette agression, soit du côté de la dépression, soit du côté du désir d'agression en retour. C'est vraiment ce travail, il est à faire instantanément, freiner ces réactions impulsives pour tenter de civiliser un peu le débat.
Mathilde Lévesque.
Oui, moi, encore une fois, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas le même angle de lecture, puisque moi, je ne suis pas du tout psychologue, loin de là. Mais quand même, on s'y retrouve dans le discours. C'est-à-dire, moi, de mon point de vue, du point de vue rhétorique, quelqu'un qui se laisse gagner par l'émotion, la colère, et quelqu'un qui perd la face, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Ils sont encore jeunes. C'est-à-dire, attention, tu domines momentanément parce que tu es en colère, parce que tu as la rage, parce que tu occupes l'espace. Mais il est très clair pour moi que la colère est une perte de contrôle de soi.
Voilà. Marie-Laure Sunshine.
Oui, on a l'impression que les choses ont changé. Il y a une prise en considération de tout ce que vous évoquez là, qui probablement, on mettait peut-être pas les mots dessus il y a encore quelques années, mais on le voit ne serait-ce qu'en entreprise, la notion de bienveillance, le coaching, le management qui passe par le respect du voisin au bureau. Il faut pas humilier, la gratitude, enseigner l'empathie. J'allais dire, trivialement, c'est une espèce de blabla, encore une fois, des ressources humaines pour mettre des mots et mettre en place des process dans l'entreprise. Mais encore une fois, c'est des choses finalement qui ont toujours existé. On se débrouillait aussi très bien sans jusque-là.
Alors, je pense effectivement que le management, il faut, enfin, toute la rhétorique du management, c'est un peu ambivalent. Hein. Enfin, je le dis dans le livre. Hein, si votre patron est sympa avec vous, c'est pour deux raisons. Soit c'est parce qu'il est sympa, soit c'est parce qu'il a suivi un stage sur la bienveillance. Voilà. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les patrons deviennent sympas, ceux qui ont une tendance, parce qu'il y a aussi des patrons très sympas, hein, bien sûr, mais que ceux qui ne le sont pas comprennent la logique qui est à l'œuvre. Voilà. Ensuite, je pense que quand même, on se débrouillait effectivement, mais il y a des nouvelles réalités sociales qui sont apparues et on est dans un contexte social de crispation dans tous les sens. Hein. Donc les rapports sociaux et les rapports humains sont ultra crispés, très communautaires, communautaires parfois, c'est imposé. Hein, je veux dire, les gens ne choisissent pas forcément d'être communautaires entre eux. Donc il faut s'adapter à ça aussi. Et je pense que le fait d'y réfléchir, moi je m'en réjouis, hein, quoi, c'est s'adapter à toutes ces crispations et essayer de les démêler.
Mathilde Lévesque, Mabo, sur notre page Facebook, vous pose la question suivante. J'enseigne quelques heures en école de commerce privée. Contrairement à l'intervenante, c'est-à-dire vous, je me sens agressée par mes élèves. Bavardage, rigolades incessantes, remarques déplacées, voire critiques arrogantes de mon cours, qui font que je me sens totalement agressée. J'avoue ne plus savoir comment réagir.
Alors, je connais pas ce public-là. Je pense que quand il y a un groupe comme ça, il y a l'effet de groupe. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christophe André, en disant il faut être dans le groupe. Alors parfois, quand les leaders sont des perturbateurs, il faut suivre parce que sinon on risque l'exclusion du groupe. Donc voilà. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, mais je prétends pas avoir la solution miracle, hein, je les renvoie toujours à eux-mêmes. Je leur dis excusez-moi, mais là, qu'est-ce que vous essayez de me renvoyer comme message? C'est quoi votre attitude? Voilà, exprimez-vous directement. Qu'est-ce qu'il y a? Mon cours ne vous intéresse pas? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, d'essayer de leur faire décrypter leur propre attitude et leur faire mettre des mots dessus. Et le fait d'ouvrir l'espace de parole pour qu'ils puissent éventuellement, sans pour autant qu'on l'accepte, hein, mais dire bah ouais, c'est non, je comprends pas ou ça m'intéresse pas, permet de repenser les choses. Le but étant quand même que le cours intéresse tout le monde. Après, moi je pense que sur le public d'élèves, il faut qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent. Faut leur apprendre ça, mais tout est question de comment. Et clairement, faire le bazar, bavarder, critiquer le cours, ce n'est pas le bon comment.
Voilà. Allez, racontez-nous comment vous faites face aux agressions et manipulations verbales au 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé, tu vois bien, on veut se barrer. Même plaqué or, Paris est mort, il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie, c'est la plus belle. J'en fais le pari, il n'y a qu'elle, c'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
Thomas Dutronc interprété J'aime plus Paris.
Joyeux Noël, enfin si je puis m'exprimer ainsi.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Thérèse.
Grand bien vous fasse.
Je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par tous les trous, je te défonce.
Sur France Inter.
Voilà, 10h25, comment se faire respecter en cas d'agression ou de manipulation verbale? Élément de réponse avec Mathilde Lévesque et notre psychiatre Christophe André.
La première chose serait plutôt le choc. Réaction de surprise dans ce sens-là. Comme n'importe qui, on n'a pas l'habitude de se faire insulter ou de se faire agresser dans le métro.
La mauvaise réaction, c'est de rentrer dans ce jeu et de rétorquer une agression par une autre agression. Ça, je sais que c'est pas la bonne réaction.
J'essaie de garder mon sang-froid, je n'aime pas être violente. Parce qu'on ne répond pas à la violence par la violence.
je tente quand même de remettre les gens à leur place, de leur dire que c'est pas correct.
C'est souvent des manques d'éducation, on va dire. Des fois, c'est des personnes âgées aussi, qui sont pas forcément très aimables. Je leur dis le respect, c'est pour tout le monde, à tout âge.
Après coup, moi, j'ai le sens de la répartie. Donc, je lance en général une petite pique à la personne.
J'ai l'impression qu'il fait la queue dans les RER, je sais pas, pour rentrer, pour descendre, dans un, pour attendre le bus. Donc, la moindre des choses, des fois, ça suffit pour déclencher un problème.
Si vous laissez faire, ça vous pourrit peut-être une demi-heure ou une heure, mais si vous rentrez vraiment dans l'escalade, là, ça vous pourrit toute la journée. Ça, c'est clair.
Propos recueillis par Nicolas Beauve dans les rues de Paris cette semaine. Alors Mathilde Lévesque, je rappelle que vous publiez La Tête Haute, guide d'autodéfense intellectuelle. Que faire concrètement en cas d'agression verbale caractérisée? Que proposez-vous dans votre trousse de premier secours?
Alors, c'est difficile de répondre parce que je pense que l'une des choses fondamentales, c'est de toujours savoir évaluer le contexte. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui vous insulte l'aurait pas fait 10 minutes avant, le lendemain, aurait peut-être fait pire. Donc, c'est vrai, c'est difficile d'avoir un peu des prêts à penser, des prêts à répondre surtout. Je pense que il faut toujours avoir à l'idée que, c'est ce qu'on disait en début d'émission, que toute agression est une volonté initiale et mal réglée de préservation de soi. Donc, la question, c'est pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'on a touché chez elle qui l'a fait nous insulter. Voilà. Et donc peut-être essayer de répondre là-dessus, c'est-à-dire en la renvoyant à ses manques, à son intolérance, à la essayer de déplacer peut-être dans l'urgence, hein, là je parle vraiment du truc dans le métro, à l'urgence en le renvoyant à l'origine de son agressivité, pour ce qui est des insultes vraiment très violentes parce qu'on aurait pu nous faire quelque chose de mal, exemple un problème au volant. Agression, on peut aussi être avoir fait quelque chose de mal et la personne en face réagit de manière très violente au volant, c'est hallucinant. Bah là, je retournais, il y a une des personnes interrogées dans la rue qui disait ça, hein, ne pas entrer dans l'escalade et répondre par un sourire. La personne qui nous insulte veut nous immobiliser, veut nous sidérer. Répondre par le sourire est un moyen d'interrompre l'esprit d'escalade et d'immobiliser l'agresseur.
Christophe André.
Ouais, cette histoire de contexte est très importante, effectivement. Moi, je dirais qu'il y a quand même le premier truc, c'est quelle est la dangerosité. Parfois, il y a des gens qui sont dans un tel état que les regarder en souriant ou répondre, voilà, ils vont sortir la manivelle du coffre de leur voiture. Enfin, il y a quand même ce contexte de dangerosité, alors qui est vraiment certainement pas le plus fréquent, mais faut jamais l'oublier. Et puis après, effectivement, c'est pas se laisser faire, quoi. C'est pas se laisser faire. Ben, soit parfois, ben, en ripostant, soit en regardant dans les yeux sans broncher pour montrer qu'on n'est pas intimidé mais qu'on va passer son chemin. Mais je crois qu'il faut savoir se protéger parce qu'on a des aptitudes très différentes les uns et les autres. Certains d'entre nous sont doués pour la bagarre et d'autres ne le sont pas, et dans ce cas-là faut quand même sauver sa peau.
Chloé nous dit, quand je suis face à une situation d'agression verbale, tout d'abord, je regarde si je ne me mets pas en danger et ensuite j'interviens et j'essaye de répondre avec humour. Marie-Laure Zunshine, de Femmes Actuelles.
Oui, une petite question concernant ce qu'on va appeler avec des gros guillemets l'humour, la vacherie gratuite. Vous savez, la jeune femme au bureau à qui on va dire « Oh, aujourd'hui elle est mal lunée, elle a ses règles ». Alors soi-disant, c'est très drôle. Non, c'est quand même une agression. Donc là, c'est un peu pervers, je trouve, parce que si on répond, on va dire bon, tu n'as pas d'humour, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. C'est une situation, je trouve, qui est assez fréquente, qui touche beaucoup les femmes en l'occurrence, et qui place justement l'agressé dans une situation un petit peu plus difficile, parce que est-ce qu'il faut aussi essayer de trouver de l'humour pour répondre ou autre chose?
C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est drôle en fait. Donc,
oui, voilà. Mais c'est censé non,
mais,
être.
Mais en fait, encore une fois, retour à l'autre. T'es de mauvaise humeur, t'as tes règles. Excuse-moi. Enfin, c'est quoi le rapport? Oh, ça va, t'as pas d'humour. Excuse-moi, à quel moment c'est de l'humour? Qu'est-ce que tu trouves drôle là-dedans? Voilà. Et si l'autre dit, bah si, t'as compris, règle, mauvaise humeur, enfin là, il s'enfonce en fait. Truc et qu'il se démerde.
Bonjour Nicolas, bienvenue, vous appelez de Lyon, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes dans votre salle de bain ou quoi?
Oui, je suis dans ma salle de bain, pourquoi ça pose un problème?
Non, pas du tout.
J'ai vérifié l'adage qui veut que tout corps plongé dans une salle de bain entend sonner le téléphone.
Alors, comment vous réagissez-vous en cas d'agression verbale?
En cas d'agression verbale, déjà je garde à l'esprit le proverbe anglais qui dit que « Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me ».
Ça veut dire quoi?
Les bâtons et les pierres peuvent me casser les os, mais jamais les mots ne me feront de mal. Mmh.
Et comment vous agressez?
J'essaie de répondre par l'humour. Donc quelqu'un qui m'insulte, bah, je lui dirais par exemple, moi aussi je te fais plein de bisous, je t'aime. Ou alors j'utiliserais la réplique de Cyrano de Bergerac actualisée par Jacques Chirac. Mm-hmm. Quelqu'un qui me traite de triple con, je dis enchanté, moi c'est Jacques Chirac. Mm-hmm. Comment allez-vous?
Et la gentillesse, ça marche aussi en cas d'agression verbale chez vous?
Alors, ça marche mieux quand on fait 1m80 et 80 kilos.
Oui, c'est pas faux.
Mais bon, sinon on peut garder une certaine distance physique et puis effectivement désarmer par un sourire. Moi j'ai une situation qui est typique, c'est à vélo. Mmh. À vélo, on se fait parfois agresser par un automobiliste irascible. Mmh. Donc, en règle générale, quelqu'un qui a fait ronfler son moteur, klaxonner derrière moi, je m'efforce de le laisser passer, puis je le rattrape au prochain feu, ce qui ne manque jamais d'arriver. Mmh. Et je lui dis, excusez-moi, je suis désolé, vous étiez derrière moi, vous n'aviez aucune chance de renverser quelqu'un. Mmh. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une petite fille, une vieille dame? Bonne chasse et bonne journée, au revoir. Je m'interromps parce que je suis pressé, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pris mon vélo ce matin.
Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage. Alors Mathilde Lévesque, on a évoqué les agressions verbales, mais dans votre livre, vous intéressez également aux manipulations verbales malhonnêtes qu'on peut parfois apparenter à des agressions verbales. Alors vous avez repéré 11 figures rhétoriques qu'emploient souvent ces manipulateurs malhonnêtes. J'ai repéré par exemple, alors je sais pas si je le prononce bien, l'aposiopèse. Un exemple, c'est je te jure que si tu ne me dis pas avec qui tu étais, 3 petits points de suspension. Expliquez-nous exactement ce que c'est à partir de cet exemple-là.
Alors l'aposiopèse consiste à s'auto-interrompre en cours de phrase. Et encore une fois, hein, c'est une question de laisser la responsabilité à l'autre. On en revient toujours à là. Si tu me dis pas avec qui t'étais. Et donc c'est hyper anxiogène pour l'autre qui se dit ok, donc je restitue la fin de la phrase, tu vas t'en prendre une, tu vas voilà. Donc l'autre se préserve de l'agression formulée et vous laisse l'intégrer et vous en rend responsable en quelque sorte. Donc vous double votre responsabilité. Vous étiez avec quelqu'un d'une part, visiblement ça ne fait pas plaisir, et d'autre part c'est à vous d'imaginer ce qui va vous tomber dessus. Voilà. Donc là c'est quelque chose d'assez pervers parce que la fin de la phrase est très claire, mais l'autre ne se donne même pas la peine de terminer pour doubler la menace d'une atmosphère très anxiogène.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
On invite à finir sa phrase.
D'accord.
Voilà, puisque encore une fois, transfert de responsabilité, tu ne la finis pas, tu vas la finir et après tu vas assumer le fait que tu formules une menace.
Une autre forme d'agressivité silencieuse, l'injonction cachée, implicite.
Oui, alors bon, ça c'est pas forcément, enfin c'est pas l'une des figures les plus dangereuses. Hein. C'est lorsqu'on dit par exemple, alors que la fenêtre est ouverte, ah j'ai froid. Il est bien évident que s'il y a une employée qui passe par là, ça veut dire qu'on l'invite à fermer la fenêtre.
En fait, ce sont des énoncés cachés qui ne disent pas leurs véritables intentions.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, pour moi, c'est vraiment pas les plus dangereuses. Je sais pas.
Quelle est la forme rhétorique la plus dangereuse pour vous, qu'utilisent souvent les manipulateurs malhonnêtes?
La plus dangereuse, mais c'est pas une figure de style. La stratégie, pour moi, la plus dangereuse, c'est la flatterie. Parce qu'elle ne dit pas son nom et que face à quelqu'un qui est sensible à ça, c'est-à-dire encore une fois qui n'a pas confiance en lui, on en revient toujours là, mauvaise estime de lui-même, etc., va prendre en premier ce compliment. Et la différence entre
vous faites là une analogie entre le compliment et la flatterie.
Alors non, justement, le compliment, c'est vraiment vous bossez super bien, bisous, bonne journée. Voilà.
Et la flatterie,
c'est vous travaillez vraiment très très bien. Il y a vraiment pas votre équivalent dans l'entreprise. Bla 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 bla. Il me faudrait ça pour demain. Voilà. La flatterie attend quelque chose. Laisse attendre quelque chose.
Le compliment est gratuit et la flatterie est intéressée.
Ça c'est dangereux parce que moi j'ai vu j'ai vu des gens victimes de flatterie me dire, moi je vois la stratégie dont ils sont victimes, me dire oui mais tu vois quand même il m'a dit que j'étais ceci cela, et là c'est hyper difficile à démonter parce que ça veut dire il faut dire aux gens non mais en fait tu sais c'est, enfin oui t'es quelqu'un de très bien, mais là c'est purement stratégique en fait, et ça c'est dur. Toujours à cause de l'estime de soi.
Une autre figure rhétorique un peu dangereuse, c'est l'injonction paradoxale. On appelle cela également la double contrainte. C'est une situation contradictoire dans laquelle il est impossible de sortir, ou quasiment. Ça peut rendre fou ou dingue, et on le voit souvent dans le couple.
Oui, alors dans le
travail.
Ou dans le travail, hein, entretien d'embauche, vous êtes assommé de questions, puis là on vous dit bon là, soyez spontané. Mais précisément, la spontanéité est ce qui ne répond pas à une injonction, puisque elle ne répond à rien d'autre que le fait de sortir toute seule. Donc soyez spontané, c'est extrêmement compliqué. Hein. L'autre exemple qui est très, voilà, c'est la chanson de Renaud, c'est l'exemple que je donne dans le livre, hein, dans la chanson Ma gonzesse. Si tu me dis qu'elle est belle, tu y manques de respect, je t'allonge une avoine. Mais si tu me dis qu'elle est moche, je sais plus quoi. Enfin bon, dans tous les cas, ça se termine par un point dans le visage. Quoi faire? C'est vraiment une situation dans laquelle on ne peut pas sortir, quoi.
Marie-Laure Sonnenschein.
Dans la sphère privée, Ali parlait du couple à l'instant. Là, c'est particulier parce qu'il y a l'affectif qui rentre en ligne de compte. Et là, on est un peu désarçonné. Comment répondre à une agression verbale du conjoint, du fils, de la mère ou du meilleur ami, où là, ça nous touche au cœur. Et pourtant, on s'est senti agressé. Il faut réagir.
Oui, alors là, je pense qu'on arrive vraiment dans le cœur de la psychologie, donc peut-être Christophe André sera mieux que moi. En tout cas, moi, de mon point de vue, il faut fuir effectivement l'affectif. Il faut essayer de rester sur le nœud du conflit. Hein, mais comment faire lorsqu'on est dans un contexte affectif et en plus familial qui autorise tout un tas de débordements, hein. Un même sujet de conflit dans l'entreprise et à la maison ne prendra pas la même ampleur parce que le contexte familial et affectif autorise tout.
Non, mais effectivement, ce sont des contextes différents. Je pense que l'avantage de la relation conjugale, familiale, etc., c'est qu'on est dans la durée et dans une relation qui existe. Et donc, même si on n'a pas trop de c'est pas trop quoi dire sur le coup, on peut réfléchir, revenir, attraper l'autre, lui parler. Le problème des situations dans la rue, les insultes comme ça qui fusent, qui s'inscrivent pas dans une relation suivie, quand on ne connaît pas les gens, c'est effectivement qu'il faudrait qu'on ait des automatismes, de la répartie. Et quand on ne l'a pas, alors là, on est vraiment très démunis.
Je vous propose d'écouter un extrait du film Que la bête meurt de Claude Chabrol avec Jean-Yann. Mathilde Delevecque, vous allez nous dire comment vous lui aurez répondu à Jean-Yann.
Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire?
Je vais bouillir 4 heures.
Ah ben 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Oui.
Vous êtes une fine gueule, vous?
Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr.
Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais. Seulement ma petite femme, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Mais remarquez, moi j'ai rien contre la poésie. La culture, je suis entièrement pour, seulement... Mais qu'il est con ce monde, tu peux pas faire attention, non? Hein? Regarde ce que tu me fais faire, connard. Allez, fous-moi le camp. Tu m'attends, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp.
Mathilde Delevecque, qu'est-ce que vous auriez répondu?
Alors si j'étais qui, parce que si j'étais l'enfant, la femme ou le copain?
La femme.
je pense que j'aurais répondu, bah tu sais ce que dit le proverbe, hein, le bon sens populaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je t'en prie, tu feras le ragoût la prochaine fois. Après, il y a plusieurs. L'extrait est assez long, donc il y a plusieurs fois où il était possible de l'interrompre en repartie justement. Hein, du coup, j'ai un peu oublié, mais comme répondre sur un certain nombre d'expressions qu'il emploie, par exemple, mais moi j'aime la poésie. Déjà là, on l'interrompt, bah ça se voit pas. voilà, enfin. Et toi, t'es une fine gueule. Bah, lui, je sais pas si c'est une fine gueule, mais toi, c'est sûr que t'es une grande gueule. Enfin, il y a plein de moments où était possible de le désamorcer un petit peu. Alors après, vu le personnage, bon. Encore une fois, c'est risqué.
Il est fabuleux. Enfin, il était fabuleux, Jean-Yann. Et j'ai eu un flash en écoutant cet extrait. Je pensais au mot conjoint. Parfois, notre conjoint, c'est un vrai con qui est joint à notre destin, malheureusement. Je suis désolé, ça m'a échappé. Passons notre chemin.
Mais il est temps de retrouver vos choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de notre psychiatre Christophe André.
Alors, il y a quelques années, nous avions écrit avec mon copain Museau, le dessinateur, un petit livre illustré sur les casse-pieds, leur psychologie et leur comportement. Nous avions trouvé le titre parfait, « Ne vous laissez plus emmerder ». Hélas, notre éditeur de l'époque l'a refusé, le trouvant trop osé. Bon, comme nous sommes de bons petits auteurs, bien élevés, nous n'avions pas insisté, dommage. Mais avant de parler aujourd'hui des emmerdeurs, j'aimerais parler des bienveilleurs. Vous savez, toutes les personnes bienveillantes, polies, respectueuses des règles, les propriétaires de chiens qui ramassent leurs crottes ou leur font faire dans le caniveau, les personnes qui tiennent la porte derrière elles en souriant, les automobilistes qui freinent pour laisser traverser les piétons dans les clous, les voyageurs qui passent leur coup de fil depuis les plateformes des trains, bref, les humains sympas qui font tout pour ne pas casser les pieds aux autres, voire même pensent à les aider. Ils sont majoritaires, heureusement. C'est grâce à eux que nos sociétés, que tous les groupes humains sont vivables et agréables. Mais on ne les repère pas. Ils œuvrent dans le silence et n'attirent pas notre attention. Comme dit le proverbe, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et nous sommes plus choqués par un seul comportement incivique que par 10 attitudes de discret respect d'autrui. Ouvrons donc un peu mieux les yeux. Bon, pour autant, les sagouins, les comportements crétins, ça existe bel et bien. Les personnes qui mettent leur sono à fond sur la plage, les fumeurs qui cancérisent les poumons des non-fumeurs sur les terrasses de café au printemps, les conducteurs qui grillent la priorité, ou ceux qui garent leur grosse voiture en double file devant la boulangerie. Ou pire encore, les agressifs, les irascibles, qui vocifèrent et insultent quand on se trouve en travers de leur chemin si on rouspète. Et alors là, on fait quoi? On répond quoi, par exemple, à quelqu'un qui vient de nous crier « Ta gueule !»«
Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau.
Bon, je l'avoue, je ne suis pas très doué pour rectifier les incivilités sur le vif, comme ça, dans la rue, sur les trottoirs, dans le train. J'ai toujours un peu tendance à laisser faire, à me dire que c'est pas très grave, que chacun est libre et sera jugé tôt ou tard pour ça, ici-bas ou dans l'au-delà. Je sais que j'ai tort et aussi que ma tolérance est plutôt de la paresse. Je sais aussi que tout groupe humain a besoin de s'auto-réguler. Quand un de ses membres casse les pieds des autres ou enfreint une règle importante de savoir-vivre, il est logique qu'il soit remis en place sans agressivité, mais avec fermeté. Et il est important que tout le monde le fasse. Les chrétiens ont pour cette démarche, une belle expression. Ils parlent de correction fraternelle pour désigner l'attitude que l'on doit avoir envers un de ses semblables qui vient de pécher. L'idéal de correction fraternelle laïque me plaît beaucoup. Aller tranquillement vers ceux qui transgressent en leur demandant de cesser, sans les agresser. Après tout, ça peut arriver à chacun d'être casse-pied ou de commettre une incivilité, mais sans laisser passer, car si nous procédions tous régulièrement à de telles corrections fraternelles, nos quotidiens changeraient peut-être en bien. Vous, cher Ali, vous faites quoi par exemple quand vous voyez quelqu'un doubler tout le monde dans la file d'attente de votre boulangerie après avoir garé son gros 4x4 en double file?
J'essaie de faire preuve d'un humour un peu cinglant.
Par exemple.
En essayant de mettre le public autour dans ma poche. Voilà. C'est quand c'est possible. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, Christophe André. On peut évidemment retrouver vos choses vues en vidéo sur la page Facebook de Grand Mabou Face ainsi que sur l'appli France Inter. Allez, dites-nous comment vous réagissez aux agressions et manipulations verbales au 01 45 24 7000.
Duh. sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Billie Eilish interprétée Bad Guy.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48, comment se faire respecter en cas d'agression, de manipulation verbale? Dites-nous tout au 01 45 24 7000. Christophe André, beaucoup d'auditeurs évoquent la communication non violente comme instrument pour lutter contre ce type d'agression. Je rappelle que c'est une méthode popularisée par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Quels sont les principes de base que l'on peut appliquer en cas d'agression verbale?
Oui, la communication non violente, c'est effectivement...
Non violente.
Voilà, non violente, c'est le fait de décider de ne pas juger lorsqu'on parle avec quelqu'un, juste décrire ce qu'il vient de faire, exprimer ce qu'on ressent et montrer qu'on cherche une solution. Alors, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est important d'apprendre la communication non violente, mais c'est plutôt un outil de prévention parce que elle suppose pour marcher cette communication non violente qui est un espace de dialogue entre les gens, une intention de que ce dialogue vive. Donc, c'est comme, vous savez, c'est comme la non-violence, les mouvements non-violents, Gandhi, Martin Luther King, etc. Ça ne marche qu'en démocratie. Si vous êtes en dictature, la non-violence, comme ça mobilise l'opinion publique, ça ne marchera pas. Et dans le monde relationnel, c'est pareil. C'est-à-dire que si la personne que vous avez en face de vous se fout du lien avec vous, n'est pas intimidable, se fout de ce qu'on pense d'elle, la communication non-violente ne marchera pas. Donc je dirais que c'est très bien, justement, en prévention de ce genre de situation, mais en résolution, c'est pas mal, mais alors il faut vraiment avoir une maîtrise, un self-control que nous n'avons pas tous si nous n'avons pas été formés.
Alors Mathilde de Lévesque, dans votre livre La tête haute, vous évoquez 10 idées reçues qu'il faut absolument oublier en vous appuyant sur des proverbes de la sagesse populaire. Vous en avez quelques-uns là?
Oui, les plus importants selon moi, hein, parce qu'ils peuvent permettre déjà d'assainir la situation d'énonciation. La première idée reçue oubliée, c'est l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine, et l'habit en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'éthos, hein, l'image de soi qu'on donne dans le discours. Donc si on doit absolument tenir compte de l'image que l'interlocuteur, tout agressif soit-il, construit de lui-même. On doit faire avec, même si cela nous déplaît, parce que s'attaquer à ça plutôt qu'à ses propos, c'est le fragiliser, donc risquer l'agression plus importante. L'autre idée reçue, c'est, on dit toujours, c'est important d'avoir le dernier mot, voilà, au sens propre, pas forcément, il est parfois bon de choisir le silence, toujours dans cet effet miroir qui fait que on cesse l'esprit d'escalade et qu'on renvoie l'autre à son agressivité, on lui sert de boomerang, enfin on permet l'effet boomerang pour que son agressivité lui revienne.
La vengeance est un plat qui se mange froid.
Non, la vengeance, dans ce cas-là, non, hein, parce que, encore une fois, chaque contexte est particulier. Donc, il faut savoir répondre au moment où l'agression a lieu, même si c'est pour se taire ou même si c'est pour dire on en reparlera plus tard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et surtout, peut-être la plus importante, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vraiment, il est très important, et je vous rejoins là-dessus, Christophe André, sur la place de l'autre. On ne sera jamais vainqueur si on ne prend pas l'autre en compte. Donc, on ne suit pas sa stratégie parallèle d'agressivité, mais on se construit. C'est une co-construction, même dans le conflit. On doit prendre l'autre en compte, et la personne qui vient vous titiller, et il faut l'admettre, quelqu'un qui que vous intéressez d'une manière ou d'une autre, voilà, même si vous lui posez problème.
Bonjour Jeanne, vous appelez de Vendée, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour. Alors, j'appelais pour parler de ce professeur. Donc, je suis en école d'ingénieur. Mmh. Et on a un professeur qui nous fait cours, qui nous a fait cours en première année. Et là, je suis en deuxième année. Il ne nous donne plus de cours magistraux. Il se charge que de TP. Mmh. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais il a l'air d'adorer nous rabaisser, comme on dit. Enfin, il adore profiter de sa situation de professeur qui, donc, on sait plus que nous pour nous faire passer un peu pour des idiots ou pour des attardés quand on ose poser une question. Donc, une fois, quand on était en TP, il y a une de mes camarades avec TP qui demande, juste par curiosité, qui demande mais pourquoi est-ce qu'on fait le protocole en fait ordre, pourquoi est-ce qu'on fait cette étape est-ce que ça serait pas mieux de faire comme ça. Enfin, c'était une question qui était même intéressante d'un point de vue scientifique en fait. Et à ce moment-là, il lui a répondu en riant d'un air assez moqueur et méchant. Il lui a répondu mais vous avez rien compris au cours. Et pourquoi est-ce qu'on ferait comme ça? Mais ça n'aurait aucun intérêt. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez dire? Des fois, il faut réfléchir un petit peu avant de parler. Et tout ça en prenant à témoin l'assistant du laboratoire qui lui s'en fiche un peu de la discussion. Et en fait, ce qui m'étonne énormément, c'est que mes camarades, eux, ne réagissent pas du tout à ces commentaires.
À ces humiliations.
Oui, voilà, ils préfèrent se dire entre eux, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi, qu'est-ce qui lui prend à celui-là. On en a marre de ce type-là, mais bon, personne ne réagit. En fait, je suis la seule à répondre. Donc, à ce moment-là, moi, je lui ai dit, mais bon, on a le droit de vous poser une question quand même, vous n'êtes pas obligé de nous aboyer dessus, c'était juste une question, vous pouvez simplement y répondre. Ce sera suffisant, quoi. Mmh. Et puis à chaque fois, je lui réponds et je le renvoie un peu dans ses cordes. Et,
c'est déjà bien de répondre, oui. Jeanne, dans cette situation d'humiliation. Mathilde Lévesque, quel conseil donneriez-vous à Jeanne pour se faire respecter? Quelques règles d'or?
Mais je pense vraiment que vous m'entendez?
Oui, elle nous entend.
votre réflexe est le bon, mais peut-être pas dans la forme. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de l'interroger sur quel est le problème lorsque vous posez une question. Mais si vous lui dites, vu que visiblement, il est dans une posture de hiérarchie et d'autoritarisme, si vous employez l'impératif et les il faut, ça va sans doute pas bien passer. Donc, encore une fois, le renvoyer à son attitude et lui dire, excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce qui, dans le fait qu'un élève vous pose une question, vous agresse.
Merci. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de répondre de la manière la plus diplomate possible pour pas non plus moi aussi franchir la ligne de l'IRSN. Mais c'est un homme qui, je pense, a un problème de supériorité. Il a besoin de se faire entendre en train de dominer les autres, quoi. Mais par contre, à chaque fois que quelqu'un lui répond, tout de suite, il se rapetisse.
Je serais curieux de savoir comment il se comporte avec le directeur de votre école d'ingénieur, Christophe André.
Oui, non, je crois que la réponse de Jeanne est parfaite. Elle décrit ce que le prof fait, elle exprime son étonnement. Vous faites ça, et ben pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Mais peut-être qu'il manque une seconde étape, notamment face à des comportements pervers comme celui de ce prof, c'est ne pas rester seul. Le principe de ces humiliations et de ces abus de pouvoir, c'est qu'ils sont beaucoup plus faciles à pratiquer face à des personnes isolées, et que quand le groupe commence à se rebiffer, si chaque fois que le prof allume un élève comme ça, tout le monde grondait, il y avait des protestations dans le groupe, en disant, mais attendez, s'ils étaient 10 ou 20 à le dire, le forcerait à s'arrêter. Donc peut-être, Jeanne, commencez à en parler à des personnes autour de vous pour voir si vous pourriez ne plus être seule dans ce combat.
Dans le contexte très particulier de la salle de cours que je connais bien, je me permets de dire que je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça entretient la colère du prof lorsqu'il est mal disposé à l'égard de sa classe. Voilà, l'effet de groupe c'est jamais bon. On est mieux à parler avec un élève tranquillement. Donc que vous alliez le voir à la fin et justement, je dirais pas en présence du groupe précisément. Et sinon, il y a des recours hiérarchiques. Hein, là, je suis d'accord avec Ali. Il y a des recours hiérarchiques si tu franchis les limites et ça n'est plus à vous, élèves, de vous occuper de ça. C'est un problème de comportement qui doit poser problème à l'ensemble de l'école et de sa hiérarchie.
Merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir appelé. Mathilde Lévesque, une puissante arme à notre disposition en cas d'insultes, d'agressions verbales ou de manipulations un peu malhonnêtes. L'humour, le mot d'esprit, qui sont d'excellents moyens de répondre dignement.
Oui, alors ça c'est pour ça que c'est à la fin du livre. Hein. C'est vraiment c'est dans l'idéal, hein, arriver à transformer l'adversaire en partenaire et à s'amuser un peu autour du sujet du conflit. Ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à réagir non plus sur une idée de ce qui vous est dit, enfin sur l'idée générale de l'agression qui vous est adressée, mais à réfléchir sur une partie de la phrase sur laquelle vous pouvez rebondir pour en fait. Retourner l'adversaire.
Vous donnez des exemples de réparties. Il y a cette répartie du dramaturge Noël Coward à la romancière Edna Ferber. Noël Coward qui dit à Edna Ferber « Vous ressemblez presque à un homme » et Edna Ferber qui lui rétorque
« Vous aussi
oh, ». Vous aussi, voilà. Oui, c'est efficace, c'est simple, c'est...
Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que ça prend acte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prendre l'autre en considération, ça veut aussi dire lui laisser une place dans la réponse.
Christophe André, vous en avez repéré une répartie.
Ah ouais, il y en a une que j'adore, c'est un officier britannique qui parle au corsaire français Surcouf en disant « Oui, vous vous battez pour de l'argent, nous autres les Anglais, nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf qui ne se démonte pas, qui lui dit « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Mais moi, quand je lis ces répliques, ça me complexe un peu. Je me dis que je n'arriverai jamais à la hauteur
On
de cet esprit
On n'a pas
tous
cette capacité-là.
Mais pas Sacha Guitré.
Ouais. On n'est pas non plus Cyrano de Bergerac, hélas.
Non, mais j'en profite pour dire qu'on dit reparti et pas réparti. Et c'est très important parce que c'est une façon de repartir et non pas de répartir. Mmh. Et donc, repartir, ça veut donc bien dire que l'espoir est là et qu'on peut s'appuyer sur l'agression pour s'en sortir.
Merci beaucoup, Mathilde Lévesque. La tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle, est publié chez Payot. Merci d'être venu. Merci Christophe André et Marie-Laure Zonshine de Femmes Actuelles. Demain, on se demande comment être enceinte et féministe. Nous recevrons les auteurs du guide féministe de la grossesse, Elisa Rigoulet et Pila Intika, ainsi que la gynécologue Danielle Assoun. Question-réaction au 01 45 24 7000. À la technique, Anne-Laure Cochet et Pauline Laverdure. À suivre, Nagui et sa bande originale.